Bien, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu écouter Monsieur Bernard Minier qui vient nous présenter presque en exclusivité. Il était à Toulouse hier, il faut l'excuser un petit peu, mais vous pouvez comprendre pourquoi. Pour y nous présenter donc presque en exclusivité son troisième roman, son troisième thriller, qui paraît donc chez Ixo, qui s'appelle N'éteins pas la lumière. Alors vous avez peut-être pu lire Glacé ou Le Cercle, ou peut-être pas. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Les deux, quelquefois. Et donc, N'éteins pas la lumière, qui est paru donc hier. Donc, c'est vraiment, on va essayer de pas trop en dévoiler non plus pour ne pas déflorer tout le sel de l'intrigue et tout le suspense, puisque bien sûr, il y en a beaucoup, encore une fois. Donc, pour rappeler un petit peu. Glacé, que vous avez fait paraître en 2011, était votre premier roman. Vous en avez vendu beaucoup. On a été de suite enthousiaste pour ma collègue Karine. C'était elle qui l'avait découvert. Elle me l'a fait lire de suite. Et on avait fait un coup de cœur. Moi, j'ai récidivé avec Le Cercle, qui était paru en 2012, qui était finaliste du nombre prix. Et vous avez aussi une dizaine de traductions, donc ce qui montre quand même pour un auteur français de thriller qui est quand même très, très encourageant. Une presse, on disait tout à l'heure, qui est assez unanime. Oui. L'accueil du public, l'engouement des lecteurs et de la chaîne du livre, comme on dit, est là. Donc pour commencer avec N'éteins pas la lumière, on pourrait parler un petit peu du personnage principal, parce que c'est lui dont on a plaisir à retrouver l'histoire. Donc Martin Servaz, comment vous est venue l'idée au départ de camper ce personnage? Quel a été le point de départ est-ce que c'est le lieu, donc est-ce que c'est le Sud-Ouest, ou est-ce que c'est le personnage en lui-même qui vous est venu
Alors déjà, bonsoir à tous et merci d'être là. Alors pour répondre à la question, en fait, le personnage est venu après. Les premières idées n'étaient pas vraiment... c'était plutôt Glacé. Au départ, c'était la première scène du livre, c'était le décor, c'était l'atmosphère. C'était ce fameux cheval qui est suspendu à 2000 mètres d'altitude. Et quand j'ai commencé avec ce personnage d'enquêteur, je pressentais que ça serait un roman policier. Je n'étais pas tout à fait sûr, mais je pressentais que ça serait un roman policier. Et donc j'avais besoin d'un personnage d'enquêteur, évidemment. Donc quand j'ai commencé à écrire le livre, il était un peu dans la brume. C'était une silhouette. Il n'était pas très précis, pas très. Et c'est petit à petit, en avançant dans l'histoire, que ce personnage de Martin Servaz s'est précisé, qu'il a pris chair, qu'il a pris vie. Et très à la fin du livre, j'avais un personnage qui me paraissait extrêmement proche, extrêmement familier, que je connaissais très bien. J'ai pas constitué une bible de personnages ou quelque chose comme ça, une espèce de technique avant de commencer le livre. Non, c'est vraiment l'histoire qui a commandé le personnage, et même les personnages autour petit à petit sont constitués comme ça, progressivement, très progressivement. Mais aujourd'hui, je dois reconnaître au bout du troisième livre, puisque j'ai repris des personnages récurrents, en particulier Martin Servaz, et on retrouve Espérandieu, mais très brièvement dans celui-ci. On a vu Irène Ziegler dans Le Cercle. Je dois reconnaître que c'est des personnages que je connais très bien, qui sont extrêmement familiers. J'ai presque l'impression que ce sont des parents ou des cousins ou des amis. C'est des personnages que je pourrais presque croiser au coin de la rue. Et pour moi, ils sont extrêmement vivants. Ils sont presque plus vivants que certaines personnes que je connais. Enfin, en tout cas, peut-être parce que je ne les connais pas suffisamment, mais moi, je les trouve très vivants.
Et justement, la question de beaucoup de lecteurs de romans policiers, puisque beaucoup de polars sont des séries, est-ce qu'il est important, la question récurrente que tout libraire et tout lecteur se pose légitimement, est-ce qu'il est important d'avoir lu Glacé et Le Cercle pour lire N'éteins pas la lumière?
On pose
la question à l'auteur.
La grande question. Non. Moi, je serais tenté de répondre non, évidemment. Mais non, je ne pense pas. Ce sont des histoires indépendantes. Néanmoins, il faut bien reconnaître que les personnages évoluent. Les personnages, en tout cas, qui reviennent d'un livre à l'autre, évoluent. C'est l'intérêt de la chose, qui est une dynamique dans ce qui leur arrive et dans leur vie personnelle. Sinon, ça ne représenterait aucun intérêt de les garder. Mais les histoires, elles sont totalement indépendantes les unes des autres. En général, je fais toujours la même référence quand on me pose cette question-là. Je Je parle de Mankell, qui est un auteur que j'aime énormément, et de la façon dont il a été traduit en français. C'est dans les années 90, quand les premiers livres de Mankell sont arrivés. Le premier, je crois que ça a été Meurtrier sans visage, et puis très vite, ça a été La cinquième femme, qui n'était absolument pas le deuxième livre, qui devait être le quatrième ou le cinquième. Puis il y a eu Les morts de la Saint-Jean, puis La muraille invisible. Ils ont été traduits dans le plus grand désordre. Or, chez Mankell, il y a des personnages secondaires qui sont très importants, comme la figure du père. Et à un moment donné, on lisait un roman où le père de Wallander décédait, et dans le bouquin suivant, il était ressuscité. Alors c'était un peu perturbant pour la lecture, et malgré ça, on arrivait très bien à, parce que c'était des histoires à chaque fois différentes, ce qui est aussi mon cas, ce sont des histoires différentes. Les personnages, évidemment, il y a une évolution dans les personnages, mais je pense qu'on peut très bien rentrer dans la série par quelques livres que ce soit, et lire ensuite à rebours et découvrir en fait quelle a été l'évolution de la personne du personnage en remontant dans le temps. C'est pas très gênant parce que ça reste quand même périphérique par rapport à l'intrigue principale.
Et justement, Martin Servaz, qui est donc votre personnage récurrent, il est dans une situation un peu particulière au début de N'éteins pas la lumière. Est-ce que vous pourrez en dire un peu plus par rapport à la situation délicate dans laquelle il se trouve, parce qu'il va enquêter, mais bon, il ne devrait pas.
Oui, c'est vrai qu'il est en fait un arrêt maladie. Il affronte un mal qui est difficilement discernable, qui est la dépression, qui est un mal qui vous sépare du reste du monde en général, et qui est une espèce d'ennemi intérieur, et qui fait qu'on n'a plus envie de rien, on n'a plus envie de se battre, on n'a plus envie on n'est plus intéressé par aucune chose. D'ailleurs, beaucoup d'écrivains ont été atteints de ce mal au cours des siècles, et on en a très bien parlé. Je me rappelle d'un livre de William Styron qui s'appelle Face aux ténèbres, sur la dépression, qui est remarquable, mais enfin, ce n'est pas le sujet du débat. Donc voilà, il est dépressif, il est dans une maison de repos pour flics dépressifs, comme il en existe une en France. Alors moi, je l'ai situé dans le sud-ouest, ce n'est pas le cas, mais bon, voilà, j'ai déplacé, comme d'habitude, j'ai reconstitué une géographie un peu fictive, mais ce genre d'établissement existe. C'est un peu la conséquence de ce qu'il a vécu dans le livre précédent, Le Cercle, pour ceux qui l'ont lu. Bon, ça, je pense qu'on peut le dire. Et donc, il a plus goût à rien. Cependant, quand le livre commence, comme il le dit lui-même, quelques pouces commencent à apparaître dans le paysage désolé qu'est devenu sa vie. Et c'est pour ça aussi que j'ai commencé le livre par l'hiver, par la neige, parce que c'était un peu une métaphore de sa situation personnelle, c'est-à-dire que voilà, le paysage de son existence est gelé. Mais quand le livre débute, quelques pouces commencent à apparaître à travers la neige. Et ces pouces vont être nourris, en quelque sorte, encouragés par le fait qu'il va recevoir un petit paquet contenant une mystérieuse clé électronique de chambre d'hôtel, totalement anonyme. Il ne sait pas qui lui envoie, il ne sait pas pour quelle raison, il ne sait pas ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel. Et c'est ce qui va un peu lui redonner goût à la vie, c'est-à-dire son métier, qui est la seule chose pour laquelle finalement il vit. Et la chose qui le passionne le plus au monde, enquêter et voilà, résoudre des mystères. Donc ça commence comme ça.
Et pourtant, rapidement, on passe à un autre personnage qu'on ne connaît pas, un personnage féminin. Et je pense qu'on va en dire pas mal par rapport à, enfin, de façon assez générale, sans en dévoiler non plus trop, mais Christine Steinmeier, qui est quand même le personnage, on le sent central quand même
Oui.
de ce roman. Alors, comment est-elle née, elle, Christine Steinmeier? Quelle était l'impulsion?
Alors,
Quelle était
elle est née d'un désir, d'une volonté qui me chatouillait depuis un certain temps. J'avais déjà consacré, enfin essayé de consacrer un soin particulier à mes personnages féminins dans Glacé, dans le Cercle. Dans Glacé, on avait par exemple Diane Berg et puis Irène Ziegler. Dans le Cercle, à travers le personnage de Marianne. Mais j'avais depuis un certain temps envie d'avoir un personnage principal qui soit une femme. Donc c'est fait avec N'éteins pas la lumière, puisque de fait, Servaz est un petit peu en retrait, même s'il est quand même très présent et il mène l'enquête. Le personnage principal étant cette animatrice de radio, Christine Steinmeier, qui au début du livre reçoit une lettre écrite de toute évidence par une femme qui va se suicider. Donc, dans un premier temps, Christine pense que cette lettre ne lui est pas adressée, qu'il s'agit d'une erreur, que la femme s'est trompée de boîte aux lettres. Et pourtant, à partir de là, elle va devenir la victime d'une série d'incidents, voire même d'attaques, au départ presque anodines, puis de plus en plus inquiétantes, qui vont faire de sa vie un enfer, un cauchemar, avec un acharnement particulier contre elle. Et aussi, elle va recevoir un appel, puisqu'elle est animatrice de radio, elle va recevoir un appel à la radio, l'accusant de n'avoir rien fait pour cette femme qu'il a appelé au secours, et dont pourtant elle ne sait rien. Voilà, c'est un peu. Et c'est effectivement le personnage principal de N'éteins pas la lumière, encore plus que Servaz. C'était un travail très intéressant de construire ce personnage. Je voulais un peu casser les clichés. Je voulais pas que ça soit simplement une victime ou une simple ambitieuse. Je voulais le densifier, le complexifier un peu. Et bien sûr, c'est la difficulté particulière, c'était d'avoir un personnage de femme. J'ai évidemment fait lire les premiers jets, les premières moutures à des lectrices éclairées qui m'ont donné leur point de vue parce que je voulais qu'elle reste absolument crédible pendant tout le livre, dans ses réactions, dans la façon dont elle agit par rapport aux situations dans lesquelles je la place.
Oui, justement, c'est extrêmement vraisemblable, extrêmement crédible, comme vous dites, parce qu'elle va être victime vraiment d'une véritable descente aux enfers, quoi. C'est vrai que ça va être de mal en pis, mais pourtant, vous ne versez jamais dans le cliché. C'est-à-dire que le côté, le discours, s'il n'y a jamais de discours victimaire, même si elle a été, si elle est vraiment persécutée, vous passez par toutes les étapes
De la
de
manipulation
la
et de la
manipulation,
persécution, oui.
voilà, et vous, quand même, vous déjouez quand même tous ces clichés, puisque quand même, vous n'en faites pas simplement une victime. Donc vous en faites une femme faible, certes, affaiblie, terrassée.
Oui, pas faible, affaiblie, oui.
Voilà.
Affaiblie parce qu'il lui arrive, mais pas faible fondamentalement.
Voilà, pas faible fondamentalement, parce qu'il va y avoir, comme pour Martin, il va y avoir un rebond.
Oui, et au contraire, elle va montrer, à un moment donné, elle va montrer sa force, elle va montrer sa détermination et elle va réagir par rapport à la situation qui est la sienne, même si c'est extrêmement difficile, évidemment, compte tenu de ce qu'elle vit. Oui, le fait est que je voulais m'écarter des clichés, mais c'est tout ce que je veux faire à chaque fois. C'est-à-dire que plus finalement on en sait sur une question, plus moi, c'est pour ça que je me documente beaucoup. Je vais à la rencontre, par exemple, des policiers toulousains. Je vais rencontrer des personnages par rapport au domaine que je choisis, parce que plus le matériau dont dispose un auteur est authentique, que ce qu'il va inventer derrière sera intéressant et pourra s'éloigner des stéréotypes et des clichés. Là, en l'occurrence, l'idée de départ aussi, le déclencheur, je ne lui ai pas dit, mais le déclencheur de ce livre, ça a été la lecture pendant que je volais vers l'Argentine pour un salon du livre là-bas, et Dieu sait que j'ai peur de l'avion. Donc il me fallait trouver une lecture qui soit vraiment accaparante, parce que sinon je serais incapable d'oublier les turbulences. Donc je me suis dit, en roman, ça va peut-être pas marcher suffisamment. Et je me suis plongé dans un livre de Marie-France Irigoyen qui était sur le harcèlement, qui s'appelait Femmes sous emprise, qui est un livre extraordinaire, et où elle parle de tous ces mécanismes grâce auxquels des hommes ou des femmes, mais plus généralement des hommes, assoient leur emprise sur une personne, l'encerclent, l'isolent, finissent par prendre le contrôle sur elle à travers tout un tas de mécanismes, donc ce qu'on appelle évidemment les manipulateurs pervers. Donc j'ai trouvé ça absolument passionnant, et quand je suis arrivé à Buenos Aires, j'avais pris tellement de notes que j'avais une bonne partie de mon histoire. Il faut dire que 14 heures d'avion, ça aide.
Oui, tout à fait. Hein. Mais c'est pas le seul thème que vous abordez dans ce troisième opus. Vous avez mêlé ça quand même de façon extrêmement subtile à l'intrigue par rapport à Servaz, et vous avez abordé un autre thème qui tient la Toulouse elle-même, au thème de l'aéronautique et
Et
de la
d'espace.
conquête spatiale.
Oui, ce qui m'intéressait dans la conquête spatiale, parce qu'en fait, plus largement par rapport au sujet du harcèlement, le sujet aussi en filigrane, hein, il s'agit pas de. Moi, je ne suis pas là pour délivrer des messages ou pour. C'est voilà, c'est toujours par imprégnation. On raconte une histoire et par imprégnation, on finit par rendre une photographie de la société contemporaine, mais c'est à travers l'histoire elle-même. L'un des sujets, plus largement, c'est un peu le statut et la place de la femme dans la société d'aujourd'hui, et Dieu sait que c'est un débat assez vif par les temps qui courent. Donc, la conquête spatiale pour deux raisons. D'abord, parce qu'effectivement, Toulouse est un des hauts lieux de la conquête spatiale. Et deuxièmement, parce que je me suis aperçu qu'en 30 ans d'aventure spatiale, on a envoyé une seule femme dans l'espace, comme si c'était là encore un domaine réservé aux hommes. Donc cette situation-là a fait qu'à un moment donné, oui, c'était très intéressant de parler de ce domaine en particulier, parce que ça a renvoyé justement à toutes les questions qui sont posées à travers l'histoire de cette femme.
Donc justement, on peut dire que N'éteins pas la lumière, c'est un thriller sur, enfin sur, c'est autour de la place des femmes.
Oui, disons que les femmes sont les personnages les plus importants du livre, ça c'est une certitude. En même temps, c'est pas un roman social, c'est pas une chronique sociale, c'est pas du tout le but. Quand j'écris, je raconte une histoire, j'ai envie d'attraper le lecteur par le col, de l'entraîner, et c'est plutôt par imprégnation que le thème finit par apparaître. Je ne choisis pas un thème que je voudrais illustrer, ce qui serait sans doute la meilleure façon d'écrire un mauvais bouquin, un mauvais roman. Non, c'est l'histoire elle-même qui va faire qu'à un moment donné, je vais me rendre compte qu'il y a un thème qui émerge de cette histoire-là. Et là, c'était quasiment inévitable. C'est donc plutôt, c'est pas du tout une chronique sociale, c'est un roman policier, c'est un thriller, mais il y a un thème qui se dégage, qui est bel et bien le statut, la place des femmes et surtout des personnages féminins très importants dans ce livre. D'ailleurs, il n'y a pas que Christine Stenmeyer, il y en a plusieurs qui ont quand même la part belle dans toute cette histoire.
Oui, puis des femmes victimes ou des femmes elles-mêmes manipulatrices.
Y a toutes sortes de femmes, hein, on ne va pas dévoiler l'intrigue elle-même, mais effectivement, on sent bien que dans ce livre-là, même si Martin Servaz est là, heureusement, pour rétablir un peu l'équilibre, on sent bien que les femmes sont quand même, pèsent beaucoup plus dans la balance que les hommes, dans celui-ci en tout cas.
Et pas que des femmes dans le de côté du point de vue de l'histoire, il y a aussi des femmes indirectement dans le milieu aussi de l'opéra. Je crois que ça revient toujours.
Oui, alors là, l'idée, c'était. En fait, c'est une idée qui m'est venue à posteriori. Hein. Au départ, c'était pas prévu. Mais en écoutant de l'opéra et en parcourant des livrets d'opéra, et surtout à travers un livre qui s'appelle, la lecture d'un livre qui s'appelle L'opéra ou la défaite des femmes de Catherine Clément, je me suis aperçu qu'à l'opéra, les femmes ont quasiment tout le temps un destin tragique. Elles sont presque tout le temps victimes, elles sont trahies, trompées, bafouées, assassinées, suicidées, poussées à la folie ou à la mort. Enfin, les malheurs des femmes font visiblement le délice des amateurs d'opéra. Donc, je me suis dit que c'était un accompagnement musical parfait, un fil rouge parfait, d'autant qu'en plus, il y a le Théâtre du Capitole à Toulouse qui est un opéra très, très connu. Et comme j'aime beaucoup mettre des musiques dans mes livres, il y en avait dans le Glacé, il y en avait dans le Cercle. J'ai trouvé que c'était voilà, il y a d'autres genres musicaux qui apparaissent, puisqu'il y a des personnages évidemment qui ne sont pas spécialement portés sur l'opéra, mais c'est un peu le fil rouge, l'opéra. Et d'ailleurs, toutes les têtes de chapitre font référence au vocabulaire lyrique en même temps.
Oui, vous avez à chaque fois, vous avez trois actes.
Oui, comme à l'opéra, oui,
Voilà.
enfin, comme certains opéras,
Comme
ça
certains
dépend.
opéras,
Ouais.
avec des citations en exergue de Madame Butterfly.
Et puis trois actes qui finissent en général par une espèce d'acmé émotionnel voilà, comme les finales d'actes dans les opéras qui à chaque fois finissent comme ça, jusqu'au dénouement qu'on va pas évidemment dévoiler. Mais oui, ça fonctionne un peu comme c'est un construit un peu comme un opéra, oui. Même si c'est des actes de longueur inégale, on a toujours un final comme ça qui est très intense. C'est un peu le principe. Mais cela dit, il y a beaucoup de. On pourrait trouver des points communs entre le thriller et l'opéra si on cherchait un peu. Par exemple, dans les livrets d'opéra, l'action doit toujours évoluer très rapidement. Hein. C'est pour ça que, par exemple, quand on a des adaptations d'œuvres littéraires, on est obligé de couper, d'élaguer, de choisir, comme l'a fait, comme par exemple, Francesco Maria Piave l'avait fait avec La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils, qui est devenu, comme chacun sait, la Traviata. Donc on a ce principe dans l'opéra d'alternance de moments forts qui doivent jusqu'au dénouement. C'est pas très différent de la construction d'un thriller, de ce qu'on fait quand on structure ce genre d'intrigue.
Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à une citation que vous faites en effet, enfin, un extrait. C'est Christine qui pense à un petit garçon et qui dit à un moment, tu sais ce qui fait les qualités d'un bon livret, c'est simple, il faut que l'action avance
Voilà,
rapidement.
c'est ça.
Il faut enchaîner les moments forts jusqu'au dénouement, tragique bien sûr. Musicalement, la clé de voûte, c'est l'aria da capo
Oui.
en trois parties, la troisième étant une reprise de la première. Il ne faut cependant pas qu'il nuise à la progression dramatique. Tout est une question de dosage.
Il est évident que quand j'ai écrit ça, je ne pensais pas uniquement à l'opéra.
Voilà,
Oui,
le
bien
livret,
sûr.
c'est le livre, c'est le roman aussi.
C'est le roman, en particulier le roman policier, le thriller.
Dans N'éteins pas la lumière, vous avez comme dans Glacé, il y avait enfin, ce qui m'a frappé, bien sûr, en lisant le troisième. Glacé, il y a deux enquêtes en parallèle. Il y a celle de Diane Berg et il y a celle de Martin Servaz. Dans Le Cercle, il y a l'enquête de Martin et il y a l'enquête officieuse de sa fille, Margot.
Oui, enfin, qui est quand même beaucoup plus parcellaire. Hein. C'est pas aussi
Oui.
nettement marqué que dans le Glacé ou dans celui-ci, où on
Oui.
a vraiment deux intrigues parallèles qui se rejoignent à la fin. Dans le Cercle, c'était essentiellement une intrigue qui était celle de Servaz. Après, on voyait des apparitions ponctuelles de sa fille, mais on n'avait pas vraiment deux intrigues. La construction était un petit peu différente. Oui.
D'accord, enfin moi je l'avais senti vraiment
D'accord.
comme une intrigue
Bon.
importante, mais après vous faites justement toujours vous construisez toujours vos romans, voilà, avec plusieurs pistes, fausses pistes bien sûr, et à chaque fois vous arrivez à manipuler totalement vous-même votre lecteur, quoi. C'est à chaque fois réussi de façon.
J'essaie de manipuler mon lecteur, de faire en sorte qu'il soit surpris à la fin et qu'il n'ait pas prévu la fin avant d'y arriver. Mais bon, après, il y a toujours des lecteurs très très sagaces ou très exercés à lire des romans policiers. C'est difficile de les rouler dans la farine. Donc, je fais des statistiques. Hein. Si j'ai 80%, 15% de lecteurs surpris, c'est bon, ça, le bouquin est réussi.
Moi, j'en fais partie des 15%.
Je dis ça, mais c'est pas vrai. Mais bon, on pourrait. Il y a toujours des lecteurs qui me disent j'ai trouvé la fin avant d'y arriver. Il y en a beaucoup, mais il y en a de temps en temps. Alors après, je ne suis pas là pour vérifier s'ils disent la vérité ou pas. Hein, j'en sais rien. Mm. Je suppose.
Et le titre n'éteint pas la lumière ou même la photo de couverture qui est très, 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 très belle, très bien choisie, je trouve, finalement, oui. la couverture définitive. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus par rapport à le mystère du titre ?
Alors, n'éteint pas la lumière. Déjà, il faut savoir que Christine Samayor, c'est pas un gros dévoilement puisqu'on s'en aperçoit assez rapidement. Elle a peur du noir, elle a une peur panique de l'obscurité. Donc il y a déjà ce premier point. Il y a ensuite, après c'est difficile de donner trop d'explications, oui, parce que sinon on va dévoiler beaucoup de choses. Il y a la volonté que j'avais dans ce troisième titre qui est très différent des deux premiers qui étaient courts. La volonté que j'avais de tutoyer le lecteur ou en tout cas de l'interpeller comme ça, voilà, pour le prendre par le col. De nouveau, j'avais cette idée-là. C'était un peu dans la mesure où on a ici un roman où les femmes, les personnages féminins sont très importants. Je voulais faire un peu un clin d'œil au titre des romans de Marie-Guise Clarke et d'auteurs comme ça où effectivement les femmes étaient très présentes. Donc voilà, c'est peut-être un peu l'idée du titre, elle est là. Et cette peur de l'obscurité que connaît Christine Steinmeier et qu'elle va être obligée de surmonter compte tenu des circonstances.
Pour une raison bien particulière, bien sûr, qu'on ne dit pas, mais voilà, il y a un souvenir comme ça refoulé qui va...
Oui, il y a plein de choses qui vont remonter à la surface, oui.
Oui, à la suite de cette manipulation. Et la couverture, justement, la photo de couverture, c'est quoi qu'est-ce qui t'a emprisonné dans cette glace ?
C'est une bonne question. Moi, je l'aime beaucoup. Hein, oui, j'ai été le premier surpris en la découvrant parce que, en fait, c'est l'idée sur laquelle on était parti au départ n'était pas celle-là. Donc, elle est entièrement à mettre au crédit de Bruno Barbette qui a fait la couverture. Et moi, je trouve que c'est un peu un test de Rorschach. C'est-à-dire qu'en dehors du fait que c'est une rose, tout le monde peut y voir et tout le monde y voit une chose différente. C'est un peu un symbole ou une métaphore et chacun y trouve, y voit des... On peut y voir un cœur, on peut y voir plein de choses, on peut y voir des choses beaucoup plus... Elle est très, 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 très réussie, cette couverture. Elle est très intrigante, très mystérieuse et... Ouais.
Il y a toujours l'emprisonnement dans la glace.
En plus, oui, la glace ou l'eau, puisque ça, on peut voir aussi des gouttelettes. On peut imaginer toutes sortes de choses. Et c'est ce qui fait d'ailleurs sa beauté. Ah non, elle est magnifique, oui.
Oui, parce que la scène, vous soignez particulièrement vos entrées. Et la scène première est une scène... alors, on ne sait pas, on n'est pas du tout à Toulouse. Hein, on est à la frontière de la
Pologne et de... Et de la Biélorussie, oui. Oui, la scène inaugurale. Mais là, c'est pareil, on ne peut pas dire trop de choses dessus. C'est encore une scène très, très atmosphérique, hein, avec un climat qui se passe dans la neige. L'origine de cette scène, l'idée de cette scène, c'est peut-être tout simplement que j'ai fait une tournée polonaise l'année dernière pour mon éditeur là-bas. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Non, puis c'est un endroit extraordinaire. Cette forêt qui est de Bielorussie, qui se trouve à la frontière... Polono-russe, c'est un des derniers vestiges de la forêt primaire qui recouvrait tout le nord de l'Europe. On y trouve des bisons, on y trouve des loups. C'est un peu l'atmosphère du conte de fées, quoi. Quand on rentre dans cette scène inaugurale, c'est un peu comme si je disais il était une fois. Voilà, c'est pour donner le ton de ce qui va suivre.
Pourtant, c'est pas un conte de fées là, c'est quoi ?
Oui, mais les contes de fées, si vous vous rappelez bien, c'était pas si rose que ça. Hein. S'allégrait-elle, c'est pas drôle du tout. Hein.
Non, c'est vrai. Et votre façon de construire votre roman, les pistes que vous lancez, les retournements de situation, est-ce que vous avez un plan précis de ce que vous allez faire dès le départ? Ou est-ce que ça se décante au fur et à mesure? Est-ce que c'est les personnages
J'essaie de faire en sorte que les personnages aient le dessus, oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme un puzzle. J'ai des idées qui. Alors, j'en élimine un certain nombre, j'en garde certains autres. C'est un travail, tout comme la rédaction proprement dit, c'est un travail sur les idées, examiner les idées, le tourner autour, voir si elles sont bonnes ou mauvaises. Et puis petit à petit, ces idées s'emboîtent les unes dans les autres. Alors, la chose qui est importante maintenant, puisqu'on en est au troisième livre et que je connais très bien mes personnages, c'est. Je sais que je ne peux pas demander à mes personnages de faire certaines choses. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Quand je les connais suffisamment pour savoir que si je leur demandais de faire telle chose, ça serait artificiel et ça serait tromper le lecteur par rapport à... Donc voilà, d'une certaine manière, oui, le personnage commande aussi ce qui se passe. En l'occurrence, ici, le personnage Christine Sandmeyer, cette femme, telle qu'elle est constituée, avec tout ce qu'elle a vécu, avec son passé et son passif. Voilà, elle doit réagir de telle manière et pas de telle autre. Donc ça aussi, c'est important.
Vous faites donc presque une fiche pour chaque personnage. Comment vous procédez?
Oui, j'ai des fiches assez détaillées sur les personnages qui s'enrichissent au fur et à mesure de l'écriture du roman, forcément. Déjà pour pas parce que un roman de 600 pages, c'est quand même. Il arrive un moment donné où pour se souvenir de tout ce qui est à l'intérieur, c'est quand même une espèce de grosse machine. Avec toutes ces articulations, tous ces mécanismes, donc c'est aussi un puzzle. Mais en général, passer un certain cap, je connais suffisamment mes personnages pour pouvoir les comprendre. C'est un peu comme quand on découvre une personne finalement, qu'on rencontre quelqu'un avec qui on a des affinités ou pas, on fait sa connaissance et au bout d'un certain temps, on la connaît suffisamment bien pour aller au-delà des apparences et au-delà de la première impression qu'on en a eue. Donc là, c'est un peu la même chose. Il arrive un moment où le personnage, on le connaît vraiment, donc on sait à peu près ce dont il est capable.
Et on voit que en même temps, le cadre, donc le territoire que vous explorez, donc le sud-ouest, vous y avez grandi, je crois. Vous êtes.
Oui, j'ai grandi au pied des Pyrénées, oui. Tout à fait dans le Comminges, qui était le lieu de l'action de Glacé. Et puis j'ai étudié ensuite à Toulouse, mais bon, c'était des études assez peu glorieuses, donc j'ai vu.
Parce que vous n'êtes pas du tout à la base, il n'y a pas du tout de. Enfin, vous avez été contrôleur des douanes.
Oui, en région parisienne.
Vous avez arrêté il y a quelques années.
J'ai arrêté après, enfin oui, après mon glacé. Enfin, j'ai arrêté. Pour être précis, je suis en disponibilité de la République. Hein, je ne suis pas rayé des cadres. Officiellement, je suis encore contrôleur des douanes.
D'accord. Donc, et depuis le succès de Glacé, c'est vrai que vous avez installé vraiment, enfin, pour les lecteurs, des personnages, même les personnages secondaires sont extrêmement attachants, sont extrêmement forts. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, même s'ils apparaissent pas tant que ça dans le dernier, mais voilà, Vincent Espérandieu, donc Irène Ziegler.
Il y a une Ziegler qu'on voit quasiment pas dans
Non,
celui-ci.
celui-là, même Samira Chung, enfin voilà, des personnages comme ça. Est-ce que pour vous, c'était aussi important de les soigner, ces personnages, que tu n'y a pas que Martin Servaz?
Oui, bien sûr, parce que ça me paraît évident qu'à partir du moment où on veut écrire quelque chose qui est une certaine vérité, les personnages secondaires ont leur importance. Ce n'est pas des silhouettes, ce n'est pas des simples faire-valoir. Ils sont pas là uniquement pour tendre l'arme au bon moment ou pour ouvrir la porte quand on leur demande. Non, non, c'est des. En plus, là, il s'agit d'une équipe d'enquêteurs, donc chacun interagit avec les autres, chacun est complémentaire. Espérandieu, par exemple, dans Déglacé, c'était un geek qui est passionné de manga, de rock indépendant, de choses comme ça, alors que Servaz, lui, est très old school, très. Et Samira Chung, c'est une jeune femme qui a des origines à la fois nord-africaines et chinoises. Donc oui, tous ces personnages ont quand même. En même temps, ça me permettait aussi de dresser un spectre assez large de la population française, de ce qu'on est, de toutes les composantes de notre société, même si ce n'est pas la finalité première. La finalité première, évidemment, c'est de construire des personnages intéressants. Oui, je m'applique beaucoup, j'attache beaucoup de soins à construire ces personnages secondaires. Évidemment, ils ne sont pas aussi importants pour moi que peut l'être Servaz ou Irène Ziegler dans les romans précédents. Mais en aucun cas, ça peut être des silhouettes ou de simples apparitions, non. Cela dit, dans le troisième, ils sont moins présents, on les voit très peu, parce que Christine Sandmeyer, donc ce personnage nouveau, occupe l'essentiel de la place. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup à dire sur ce personnage.
Et Toulouse, c'était une évidence?
Oui, tout à fait. Dans les deux premiers, j'avais tourné autour en quelque sorte. J'avais commencé par les Pyrénées dans Glacé, puis je m'étais rapproché à 100 km de Toulouse avec cette ville imaginaire de Marsac, ce Cambridge du Sud-Ouest.
Dans le cercle.
Voilà, dans le cercle. Et là, j'ai poussé la logique jusqu'au bout. Ça se passe à Toulouse même. Donc on n'est plus, par rapport aux deux autres, on n'est plus dans une géographie imaginaire, une ville que j'ai inventée, mais on est dans une ville réelle. En même temps, elle est quelque part, elle est fantasmée. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai quittée, cette ville. Que je vis en région parisienne, et c'est d'une certaine façon, c'est un avantage parce que ça me permet d'avoir du recul par rapport à elle. Je pense que ce serait beaucoup plus difficile d'en parler si j'y vivais. Là, je la vois de loin, je l'ai réinventée à ma façon, la mémoire est passée par là, l'imagination. J'y suis retourné, évidemment, j'ai enquêté. Par exemple, j'ai été à l'hôtel de police plus d'une fois. Il y a une scène qui se passe dans les cellules de garde à vue. Il faut savoir que je les ai visitées, évidemment. J'ai même assisté à la mise en garde à vue d'une personne, donc avec les policiers du CRU, parce que ça, c'est quelque chose que je fais à chaque fois. J'aurais énormément de mal d'écrire sur un décor que je ne connais pas. Ça me paraît très difficile à faire, ça. Même quand il s'agit d'un moment, d'un instant, d'une heure, vous décrivez un coucher de soleil, un nuage qui passe dans le ciel, vous avez besoin de quelque chose d'authentique et de concret pour construire cette scène-là. J'ai pas sans doute pas assez d'imagination pour partir de rien.
Et dans l'espace, alors vous y êtes allé?
Oui, absolument.
C'est vrai? Ah, d'accord.
Ouais, ça m'a coûté cher en plus.
C'est vrai?
Non, non, bien sûr que
Parce
non.
Il y a un
Oui.
chapitre, enfin un chapitre, une
Ouais.
lecture de journal.
Ouais, ça, c'est un sacré défi, cette scène-là.
Oui.
C'est un sacré défi parce que je me suis longtemps demandé ce que je l'écris, ce que je ne l'écris pas. Parce que oui, il faut savoir que dans N'éteins pas la lumière, il y a une petite partie de l'intrigue qui se passe dans l'espace, mais oui. Donc on quitte la Terre carrément. Alors ça, je ne l'ai pas fait. Voilà. Oui, ça, c'est les limites de ce que je ne peux pas. Mais je me suis énormément documenté sur la question. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos aussi, de films qui ont été réalisés par les différents spationautes français, par l'agence spatiale, par le CNES. Donc on peut trouver. Et puis j'ai aussi des ouvrages passionnants sur la question, y compris des mémoires de spationautes d'ailleurs, qui m'ont beaucoup aidé à surmonter cet obstacle. Oui, là, non.
C'est la limite.
Oui, je veux bien descendre dans les sous-sols, mais monter si haut, c'est pas possible.
On aurait pu imaginer, parce que c'est là aussi, on est totalement plongé dans cette.
Mais c'était, oui, ça, cette scène-là, c'était la. Je me suis bien amusé quand même à l'écrire, parce que c'était quand même un sacré défi d'aller glisser une scène qui se passe autour de la Terre dans un thriller. C'est,
Tout à fait.
je trouvais ça assez excitant comme idée et comme. Voilà, c'était.
Et donc l'ancrage réaliste, ou du moins recréé par l'imaginaire de l'auteur, est-ce que vous imposez des libertés quand même dans votre écriture, ou dans votre choix de thème, ou est-ce que ça vient de façon plus hasardeuse, ou est-ce que vraiment tout est déjà
Avant de commencer
Avant de
la
commencer, oui.
rédaction, ah non, 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 tout n'est pas posé, tout n'est pas défini. Pour le troisième, un peu plus que pour les deux premiers, j'avais quand même un synopsis beaucoup plus détaillé, ce qui n'était pas le cas pour Glacé et pour le Cercle. Non, je veux garder une part de liberté. En effet, si on était en mécanique, parce que je suis fils d'un professeur de lycée d'Agnic, donc j'ai parfois des métaphores un peu. Si on voulait parler de mécanique, on parlerait de jeu. Je veux laisser un peu de jeu dans le mécanisme, de façon à m'autoriser une certaine spontanéité. C'est vrai qu'à un moment donné, on écrit une scène, on pense que ça va aller dans telle direction, on a prévu que ça irait dans telle direction, puis on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Justement, comme je le disais, parce que les personnages, ça ne leur correspond pas, ils ne peuvent pas faire ça. Donc on s'en va tout d'un coup dans une autre direction, et c'est un peu, à un moment donné, l'écriture, ça peut être comme de l'écriture automatique, c'est-à-dire que c'est fondamentalement la scène précédente qui va commander ce qui se passe derrière, même si dans ce troisième volume, j'avais quand même une idée très précise de là où j'allais.
Et comme Servaz, est-ce que vous avez vous-même eu cette vocation d'écrivain Parce que Servaz, à un moment,
Oui,
a
ça c'était dans Glacé, ça.
dans Glacé, bon, c'est aussi dans le cercle, puisqu'il amène sa fille Margot à Marsac, donc enfin en Hippocagne,
c'est ça, oui.
Là où lui-même a été auparavant. Donc est-ce que ce côté littéraire du personnage et ce côté écrivain presque raté, quoi, enfin du moins, est-ce que vous avez eu envie de faire justement cette
oui. Je dois reconnaître que quand j'ai écrit cette scène, ce petit paragraphe dans Glacé où Servaz parle de sa vocation d'auteur avorté. Quant à ma Flaubert qui disait Bovary c'est moi, moi j'essaie de pas être Martin Servaz, mais en l'occurrence c'était un peu moi avant le succès de Glacé, puisque pendant des années, j'ai été contrôleur des douanes avant d'être écrivain. Donc, c'était un peu, oui, quand il se souvient d'étudiants qu'il écrivait et qu'il avait des professeurs de français qui l'encourageaient à le faire, des professeurs de lettres et puis des professeurs de français au lycée et au collège qui l'encourageaient à le faire parce qu'il avait quand même quelques qualités pour cela. Et que finalement, il se retrouve dans la police. C'était un petit clin d'œil à ce qui m'est arrivé, oui, quand je suis rentré dans les douanes et que j'ai laissé tomber tout espoir de devenir un jour auteur.
Et justement, est-ce que le parcours de Martin Servaz, est-ce que d'une certaine façon, enfin sa passion pour l'opéra, est-ce que vous avez d'autres points communs avec lui, ou est-ce que ça s'arrête au...
Ben sans doute, mais j'ai des points communs avec tous mes personnages d'ailleurs, même avec certains personnages féminins. Mais je crois que ce serait peut-être une analyse trop restrictive que de réduire ça à la biographie de l'auteur. Je crois que c'est pas. Il y a évidemment des aspects de Servaz. Le côté, par exemple, il a énormément de mal avec les nouvelles technologies. Moi aussi. Il est toujours un peu largué de ce côté-là, alors que son adjoint, qui est un geek, comprend tout de suite. Bon, mais j'ai vécu ça quand j'étais dans les douanes, donc là, j'ai pas eu à chercher bien loin pour imaginer cette scène-là. Mais là encore, je pense que c'est un peu trop réducteur de vouloir réduire à la biographie d'un auteur un personnage. C'est plus compliqué que ça, je crois, la construction d'un personnage.
Et l'étiquette de thriller, est-ce qu'elle est restrictive pour vous ? Est-ce qu'elle est maintenant elle est assumée, revendiquée ?
Elle est non, mais enfin thriller. D'abord, il faudrait définir ce que c'est qu'un thriller.
Qu'est-ce que c'est pour vous ?
Oui, mais justement, j'ai eu des débats là-dessus qui ont été interminables avec d'autres auteurs et personne n'était d'accord sur la définition de thriller. Donc, on ne va pas s'en sortir dedans. Ça pourrait durer interminablement, mais elle a quand même un intérêt, c'est qu'elle m'amène beaucoup de lecteurs. Donc, de ce côté-là, c'est très bien, mais. À la limite, roman policier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de bâtir des histoires où il y a effectivement du suspense, ou qui sont addictives, qui donnent envie toujours au lecteur de tourner la page. Donc, si c'est un thriller, pourquoi pas, oui. Oui, ça ne me dérange pas non, d'être étiqueté de cette façon-là.
Et est-ce que ça rejoint pas un petit peu aussi ce que vous faites dire alors à Julian Hirtman? Alors lui, on en a pas parlé encore.
Il faut pas en parler trop.
Il faut pas en parler trop, mais
non,
il apparaît quand même dans. Enfin, parce que c'est aussi un personnage récurrent. Même si c'est l'autre côté de Martin Servaz, c'est son de toute façon son miroir.
Oui, exactement. Miroir, c'est ça, c'est un peu son. Oui, c'est un miroir qui est. C'est un peu le côté sombre, oui. Ils ont beaucoup de points communs. C'est un peu Caïn et Abel, quoi, deux sortes de frères spirituels dont l'un est du mauvais côté, l'autre peut-être du bon. Oui, mais c'est un miroir. C'est tout à fait l'image qui convient.
Et enfin, c'est du moins ce qu'on attend, ce qu'on en entend quand la scène inaugurale va bien sûr avoir dans l'ouverture et dans le prologue, dans l'épilogue va avoir un retournement encore inattendu, et donc on va bien entendu attendre le quatrième tome pour la suite.
Alors là, qu'est-ce que je peux répondre à ça?
Est-ce que vous êtes en train en fait d'écrire le quatrième tome?
Oui.
Ou pas?
La réponse est oui.
D'accord. Ça c'est une bonne nouvelle. D'accord. Et donc j'imagine que vous êtes encore en train de collecter les informations, les documents.
Oui, mais ça va m'amener très loin cette fois-ci.
Ah.
Je peux pas en dire beaucoup, mais ça va m'amener très loin, sans doute hors de nos frontières.
Ah, d'accord. Donc
c'est prévu. Le voyage en question est en préparation, mais j'en dirai pas plus.
D'accord, très bien. Bon, on en sera du voyage. Bien, on va finir. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.